Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour, c'est l'hiver sur France Inter. Un étonnant extrait d'Isis, une tragédie lyrique de Lully écrite en 1677 d'après les célèbres Métamorphoses d'Ovide. Alors la tragédie lyrique, c'est le genre à la mode en France à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Personnages mythologiques, ballets, effets scéniques spectaculaires, le public en raffole. Dans le chœur que nous venons d'entendre et qui ouvre le quatrième acte de l'ouvrage, Lully, pour bien donner l'impression d'un froid extrême, fait chanter deux fois chaque voyelle. Li ive erki inu utu urman en te, so obsti ina anu ou je le e. Nous sommes chez les Scythes, quelque part entre l'Ukraine et le Kazakhstan actuel, et ce cœur du peuple des climats glacés frissonne comme il convient grâce au chanteur des arts florissants sous la direction de William Christie. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, une vague de froid s'est emparée aujourd'hui de la preuve par Z. Mais heureusement, nous aurons le plaisir de la compagnie de Haydn, Schubert, Tchaïkovski, Glazounov, Django Reinhardt et bien d'autres venus nous réchauffer pour cette émission Yémal. Une émission Yémal, vous ne connaissez pas ce mot ? Rassurez-vous, ça veut dire à peu près la même chose qu'hivernal, mais en tellement plus chic. Un paysage Yémal, un climat Yémal, une émission Yémal. Tenez, il y a même une mélodie de Ravel, le Noël des jouets, qui qualifie le traditionnel sapin d'arbuste Yémal. Et maintenant, forcément, obligatoirement, inévitablement, puisqu'il s'agit de faire entendre des musiques Yémal, Vivaldi. Je sais, on connaît par cœur, je ne vais rien vous faire découvrir, j'en ai bien conscience, mais les quatre saisons, ces quatre concertos pour violon en trois mouvements chacun, sont tellement saisissants, tellement inventifs, tellement imaginatifs, que chaque audition nous permet en quelque sorte une nouvelle découverte. Le premier mouvement du concerto pour violon L'Hiver, donc la quatrième des fameuses quatre saisons de Vivaldi, par l'ensemble L'Inconiti et la violoniste Amandine Beyer. Et alors que je regarde la partition, je vois qu'il est précisé mesure 22, courir et taper des pieds à cause du froid. Vous savez, ça correspond au moment où on entend tagadagadagadatatatatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat rire ou à taper des pieds pendant le concert. C'est plutôt pour développer l'imagination des interprètes, pour leur donner des images, pour les inspirer. Alors quand au début du 19e siècle, Joseph Haydn compose son grandiose oratorio « Les saisons », il met comme Vivaldi l'hiver à la dernière place, donc en quatrième partie. Haydn a presque 70 ans. Ce sera l'une de ses toutes dernières œuvres. En voici l'incroyable introduction instrumentale, une page saisissante dans le mode mineur, donnant en quelque sorte à entendre l'équivalent sonore d'un paysage glacé, étrange, inquiétant. Une musique puissante et statique tout à la fois, figurant selon le compositeur lui-même les épais brouillards par lesquels l'hiver commence. Les couleurs feutrées des instruments d'époque de l'orchestre baroque de Fribourg, sous la direction inspirée de René Jacobs, c'était l'introduction de l'hiver, quatrième et dernière partie des saisons de Haydn. Les premières représentations de ce nouvel oratorio ont été vécues à Vienne comme un événement très important, Haydn étant alors considéré dans toute l'Europe comme le plus grand compositeur vivant. Rendez-vous compte, lors d'une exécution privée chez le prince Schwarzenberg, c'est l'impératrice en personne qui chante la partie de soprano. Alors j'imagine tout à coup Brigitte Macron interprétant dans la salle des fêtes de l'Élysée la partie de soprano de la dernière œuvre de Betty Jelas, de Philippe Hersant ou de Pascal Dussapin. Et pour mieux visualiser la scène, voici l'un de mes passages préférés. Un dialogue entre la soprano et le chœur, les violons et les altos se partageant d'incessantes doubles croches figurant le mouvement d'un rouet. Car l'hiver, c'est le froid, bien sûr, mais aussi la chaleur réconfortante du poêle autour duquel se réunit toute la maisonnée, les aînés bavardant, les jeunes garçons tressant des corbeilles, les mères filant la quenouille et les filles faisant tourner le rouet. Knour, schnour, knour, ronronne, ronronne, bourdonne, petit rouet. Pour ce deuxième extrait des Saisons de Joseph Haydn, la soprano Christina Lanzhammer, le Collégium Vocal de Gand et l'Orchestre des Champs-Élysées étaient dirigés par Philippe Hervaig. Alors juste avant le chœur que nous venons d'entendre, un air de ténor décrit un voyageur errant, piétinant dans la neige profonde, ne sachant dans quelle direction orienter ses pas, voyant avec angoisse le jour baisser et la fatigue s'installer. Haydn introduit ici l'un des thèmes de prédilection du romantisme naissant, le fameux Wanderer. Voyageur qui n'arrivera jamais à destination, qui ne trouvera jamais le repos. C'est à ce Wanderer que s'identifiera tout au long de sa courte vie Franz Schubert. L'errance et la solitude imprègnent ainsi son plus beau cycle de Lieder, le Winterreise. C'est en 1827, un an avant sa mort, que Schubert achève ce voyage d'hiver, un hiver qui est bien plus qu'une saison, qui est aussi celui de l'âme. Dans l'ultime mélodie du cycle, le narrateur décrit un pauvre joueur de vielle à roue, pieds nus et les mains gelées, demandant l'aumône en vain et que personne ne remarque, une image qui le renvoie à sa propre solitude et à son propre échec. Comme un glas fantomatique, une quinte vide inlassablement répétée par la main gauche du piano soutient les lambeaux de rengaine que se partagent la main droite et la voix.
Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meine Lieder deine Leier drehen?
Der Leiermann, autrement dit le joueur de vielle à roue, le vielleux si vous préférez, dernier des 24 leaders du voyage d'hiver de Schubert, dans la bouleversante interprétation du baryton Thomas Kvasthoff, accompagné au piano par Charles Spencer. Alors en préparant cette émission sur l'hiver, j'avais dès le départ un certain nombre de compositeurs en tête, mais je dois bien l'avouer, pas César Franck, dont je vénère par ailleurs la sonate pour violon, la symphonie ou le quintet, les variations symphoniques ou les trois chorales pour orgue. Mais je n'avais jamais entendu parler de son opéra Hulda, qui occupa pourtant une grande partie de ses forces vers la fin de sa vie. L'ouvrage est une parfaite illustration de l'attrait que la culture nordique et scandinave exerça à l'époque sur les musiciens français, comme en témoigne la rhapsodie norvégienne de Lalo ou l'opéra Gwendoline de Chabrier. César Franck organise même en 1889 un concert en l'honneur d'Edvard Grieg. Une estime mutuelle, le célèbre compositeur norvégien déclarant de son côté « Je ne comprends pas les Français et leur culte de Berlioz quand ils ont César Franck, qui a plus de musique dans son petit doigt que Berlioz dans tout son corps. » Mais si Hulda n'a jamais été représenté du vivant de Franck, il n'en contient pas moins, comme l'exigeait la tradition, un ballet allégorique sur le thème de la lutte de l'hiver et du printemps, sans rapport direct avec l'intrigue de l'opéra. Entendu une première fois lors d'un concert au Trocadéro le 17 avril 1884, ce poème symphonique d'une vingtaine de minutes deviendra rapidement l'une des œuvres pour orchestre du compositeur les plus jouées de son vivant. Je dois dire que quand j'en écoute la musique, l'aspect chorégraphique ne me saute pas aux oreilles. Mais Franck n'était pas du tout de mon avis, déclarant à ses élèves stupéfaits « Je suis assez sûr du rythme de ce ballet » Et je pense qu'on peut très bien le danser, car la nuit dernière, ma femme l'a joué pour moi au piano et je l'ai dansé devant le miroir en chemise de nuit. Je vous propose de vérifier cela avec la danse de l'hiver, second mouvement du ballet qui commence de manière assez vigoureuse pour se terminer de manière douce et évanescente. C'est qu'entre-temps, le printemps, beau chevalier incarné par le hautbois, a triomphé du vieil hiver. Thank you. La danse de l'hiver, un extrait du ballet situé au quatrième acte de l'opéra Hulda de César Franck par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Christian Arming. Place maintenant au prince de l'hiver. Je veux bien sûr parler de Monsieur Tchaïkovski. Tchaïkovski aimait tellement l'hiver qu'il a nommé sa toute première symphonie « Rêve d'hiver ». Quoiqu'il ne s'agisse pas vraiment d'une symphonie d'hiver, puisqu'elle a été composée entre avril et novembre 1866. Le titre fait plutôt référence à des souvenirs, à des réminiscences de paysages yémots ou hivernaux, comme vous préférerez. Paysages aperçus à l'occasion de trajets entre Saint-Pétersbourg et Moscou ou lors d'un voyage sur la petite île de Valam, au nord du lac Ladoga. En voici le troisième mouvement, un scherzo tout en légèreté, se composant de deux sortes de valses, l'une rapide et tourbillonnante, l'autre plus lyrique, qui nous émeut un instant avant de laisser de nouveau tourbillonner les flocons de neige de l'hiver.
Thank you.
la légendaire précision d'un London Symphony Orchestra tourbillonnant au rythme du scherzo de la première symphonie Rêve d'hiver de Tchaïkovski, ici dirigée par Valérie Gergiev. Alors depuis le début de l'émission, nous associons les premiers mois de l'année au froid. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que ce n'est valable que pour l'hémisphère nord, et que par exemple en Uruguay, un pays d'Amérique latine que je connais bien pour y avoir fait un certain nombre de concerts, il fait de janvier à mars une moyenne de 24 degrés. Et d'ailleurs, mars, vous le rangez au printemps ou en hiver? La plupart des gens l'associent au printemps. Mais c'est oublier que les trois premières semaines sont en hiver, ce que vient opportunément rappeler la troisième pièce pour piano du cycle Les Saisons de Tchaïkovski. Intitulée Mars, elle penche à l'évidence du côté de l'hiver avec son sol mineur mélancolique, ses contretemps obstinés, ses délicates ornementations librement inspirées du chant de l'alouette. Merci à la grande pianiste Brigitte Ungerer, dont les interprétations de musique romantique me touchent toujours autant. Je ne peux vraiment pas imaginer le célèbre cycle des Saisons de Tchaïkovski joué par quelqu'un d'autre. Cependant, l'œuvre de Tchaïkovski qui est dans mon esprit invariablement associée à l'hiver, c'est Casse-Noisette, sans doute le ballet le plus connu de tout le répertoire. Mais si la danse de la fée dragée ou la danse des mirlitons sont des tubes obligés des publicités de Noël, le premier acte de cet extraordinaire ballet est déjà nettement moins connu. On y trouve pourtant des pages absolument extraordinaires comme la traversée de la forêt de sapins en hiver, une immense montée lyrique en ut majeur, animée de l'intérieur par les incessants arpèges des harpes. Certains y voient un passage dans l'autre monde, un voyage vers l'au-delà, quand d'autres y perçoivent le passage de l'enfance à l'adolescence, l'éveil des sens et des sentiments. des plus beaux passages du Casse-Noisette de Tchaïkovski, La forêt de sapins en hiver, interprété par l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, dirigé par Youri Temirkanov. De Tchaïkovski, nous passons tout naturellement à Glazounov, ce génial compositeur russe né en 1865 à Saint-Pétersbourg et mort à Neuilly-sur-Seine en 1936. C'est en effet juste après l'audition du Casse-Noisette de Tchaïkovski que Glazounov décide d'écrire lui aussi des ballets, dont le plus connu est Raymonda, qui continue de faire régulièrement les beaux jours du Bolchoï et de l'Opéra de Paris. Mais on connaît moins son autre ballet, Les Saisons, pour moi d'une bien plus grande qualité musicale, qui fut donné pour la première fois au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg en 1900 avec une chorégraphie de Marius Petipa. Contrairement à Vivaldi et Haydn, Glazounov fait de l'hiver la première saison de son ballet, dont voici l'introduction et le premier tableau. Vous en apprécierez, je l'espère, l'orchestration détaillée et très visuelle. On a vraiment l'impression que l'orchestre nous fait ressentir un paysage d'hiver, avec ses lignes de fuite, ses bourrasques, ses lumières blanches, ses inquiétudes et ses animaux errants. Le chef d'orchestre estonien Neeme Järvi dirigeait l'Orchestre national d'Écosse et nous écoutions le premier tableau du ballet de Glazounov, Les Saisons. Et maintenant, trois petits bonbons pour terminer l'émission. Je commence par l'inclassable Chili Gonzalez, un pianiste canadien génial et décalé, avec qui j'ai eu l'occasion de disputer un mémorable duel de piano il y a une quinzaine d'années. De son deuxième album solo, je tire ce joli Wintermezzo. Wintermezzo, mot valise entre winter, hiver en anglais, et intermezzo. Un très joli swing pour ce pianiste qui affectionne particulièrement les pianos droits, donnant un charme inimitable à ses compositions. Le deuxième de mes trois bonbons est signé Noël Chibouste, dont le prénom Yémal est particulièrement de circonstance pour cette preuve par Z hivernale. Vous ne trouvez pas ? Et voici sa sérénade d'hiver, un morceau enregistré en 1940 en compagnie du célèbre guitariste Django Reinhardt. Une sérénade d'hiver paradoxalement très chaleureuse, regroupant pour notre plus grand plaisir piano, contrebasse, guitare, batterie, trompette, clarinette et deux saxophones. Alors avec quoi rime le mot « hiver » ? Le choix est vaste, des théières de ma grand-mère au dromadaire de mon grand-père en passant par le lampadaire de mon beau-frère. Cette question cruciale m'a donné l'idée de mon troisième et dernier bonbon, un jardin d'hiver écrit et composé par Benjamin Biolay et Keren Ahn. Vous apprécierez, j'en suis sûr, la voix méliflue d'un Henri Salvador de 83 ans qui signe en 2000 avec son album « Chambre avec vue », l'un de ses plus gros succès.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs. embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Ludovic Asselot. À la semaine prochaine.